du fait de la loi de juillet 2011 interdisant la fracturation hydraulique pour extraire le gaz de schiste, a attaqué la loi en justice. En octobre dernier, le Conseil constitutionnel l'a éconduit. Lorsque le traité sera ratifié, le Conseil constitutionnel et les tribunaux français n'auront plus rien à dire. C'est le CIADI, tribunal siégeant à Washington et dépendant de la Banque mondiale, qui tranchera. Alors, plusieurs pays regrettent amèrement d'avoir signé des traités identiques de libre-échange. Traité donc qui permet aux firmes privées de protéger les investisseurs. Le traité permet aux firmes d'attaquer les pouvoirs publics, le droit privé primant sur le droit national. Alors, un exemple qui a été cité très récemment dans le Canard enchaîné, l'Uruguay, un président qui est un ancien cancérologue, très sensibilisé au problème du tabagisme. Et ils ont fait en Uruguay une campagne très très efficace, très vigoureuse, anti-tabac. Et effectivement, la consommation du tabac a diminué de 44%. Alors Philippe Morris, estimant que ses droits avaient été bafoués, réclame 2 milliards de dollars. Jugement l'année prochaine. Et là, on peut signaler que le Canada a été attaqué 30 fois par les sociétés américaines, le plus souvent pour contester des mesures destinées à protéger la santé ou l'environnement. Combien de fois le Canada a été condamné ? 30 fois. Voilà. En fait, ceci est déjà une vieille histoire, mais beaucoup l'ont oublié. Une tentative pour libérer toute entrave à l'action des multinationales avait déjà été menée lors du projet d'accord multilatéral sur l'investissement, l'AMI, négocié secrètement entre 1995 et 1997 par les 29 États membres de l'OCDE. Ça a été révélé en catastrophe, in extremis, notamment par le monde diplomatique, et la copie de ce traité souleva une vague de protestations sans précédent, obligeant à ranger le traité dans un tiroir. Et pourtant, ce tiroir n'a pas été une oubliette, parce que 15 ans plus tard, le voilà qui fait son grand retour sous un nouvel habillage. Voilà, donc... Maintenant, je vais laisser la parole à Frédéric Vial. Alors, Frédéric Vial est docteur en droit, il est enseignant en formation professionnelle, il est militant depuis de longues années, militant d'Attaque. Il a été ancien membre du conseil d'administration d'Attaque jusqu'en 2012. Il s'occupe des questions de commerce depuis 2004, donc depuis une dizaine d'années. Et donc, il est en train de sillonner la France, je crois, hein. Alors, en particulier avec, il se partage le boulot avec Geneviève Azam et je ne sais pas qui. Quand on a téléphoné, lui a téléphoné, il a dit, mais pourquoi c'est le Sud-Ouest? D'habitude, c'est Geneviève Azam qui fait le boulot dans votre coin. Ben, on lui a dit, mais Geneviève Azam est venue il y a 3 ans, donc, il est venu et il s'est levé tôt ce matin, empruntant le train le plus lent de France. La ligne Polt pour venir. Hein, donc voilà, donc je vais lui passer maintenant la parole. Et alors, à la fin des réunions, Anne-Marie, tu diras où tu veux dire
non,
un
non,
mot
non,
là maintenant
François. Non.
Voilà, et alors, Françoise aura la lourde tâche de faire la synthèse à la fin de la réunion. Donc, il va y avoir un exposé, et après ça, ça sera le débat avec les questions que vous aurez à poser les uns et les autres. Voilà, je passe la parole à Frédéric.
Bonjour à tous et à toutes. Bon, comme je ne suis pas très grand, je me lève, comme ça vous me verrez pour ceux du fond. Le train marche très bien hein, entre Paris et ici, hein, ça, c'est arrivé à l'heure, regarde, attends, ce que je vais faire. Je vais faire une cascade, hop, je vais venir jusque là. C'est mieux,
c'est
encore mieux.
Alors, bon, ça y est.
Voilà. Alors, ce dont on parle aujourd'hui, vous en avez entendu parler sous plusieurs sigles, sans aucun doute, puisque vous avez entendu le mot TAFTA. Vous avez entendu aussi ce qui a été dit effectivement tout à l'heure, c'est le nom officiel de ce dont on parle, c'est-à-dire le Partenariat Transatlantique pour le Commerce et l'Investissement, PTCI. Ça, c'est le nom officiel. Enfin, au moment de s'organiser, parce qu'il y a une plateforme qui a été créée en France, qui regroupe aussi bien des syndicats, des partis politiques, que des organisations, les faucheurs, sur les gaz de schiste, etc. Je reviendrai là-dessus. On s'est dit que partenariat, c'était un petit peu trop gentil et qu'il fallait essayer d'appeler ça par son nom. Alors, on a choisi deux, vous entendrez deux mots. TAFTA, c'est l'acronyme anglais de Accord transatlantique de libre-échange, et sinon vous entendez aussi le projet de grand marché transatlantique, qui est quelque chose, un terme générique qui dit bien ce que ça veut dire. D'autant qu'en réalité aujourd'hui vous allez avoir deux traités pour le prix d'un, parce que non seulement je vais vous parler du projet Union européenne-États-Unis, qui est celui en cours, mais également un autre entre l'Union européenne et le Canada, qui est en négociation depuis un peu plus de 4 ans, qui n'est pas encore terminé, mais qui, de ce fait, s'il arrive un jour devant les parlementaires européens, arrivera juste avant le projet dont nous allons parler. Et entre l'Union européenne et le Canada, il contient exactement le même type de mécanisme. Donc il y a véritablement, non pas un, mais deux accords contre lesquels il faut... se mettre en branle, parce qu'il il parle de la même chose. Alors, d'ailleurs, il parle de la même chose. Il parle de quoi? C'est présenté comme étant un accord de commerce. Alors, on peut se dire, bon, bah oui, un accord de commerce. Le commerce est massif déjà entre l'Union européenne et le Canada, entre l'Union européenne et les États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a besoin de s'énerver pour ça. Alors, on peut se poser la question, à quoi servent les accords de commerce? Un accord de commerce, normalement, c'est... on peut se mettre à la place des opérateurs de commerce. Quand un opérateur fait une opération commerciale, quand il y a un bateau qui rentre dans un port avec à son bord un certain nombre de marchandises, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Quels sont les droits de douane? Première question. Mais aussi, par quel personnel je vais faire débarquer les marchandises si je suis un opérateur de commerce? Est-ce que je vais pouvoir vendre sur place avec un correspondant, ou est-ce que je vais pouvoir me débrouiller tout seul? Les bénéfices que je fais, est-ce que je les rapatrie ou est-ce que je ne les rapatrie pas, et comment? Et est-ce que je paye une taxe, etc., etc. Toutes ces questions-là sont traitées à l'avance dans les accords de commerce. Et de fait, il y en a des tas d'accords de commerce. Il y en a beaucoup. D'où ma première question initiale, pourquoi s'énerver spécialement sur cet accord-là, puisqu'il y en a beaucoup? Puisque c'est un phénomène qui est déjà massif, le commerce entre ces deux zones, et puisque on n'est pas en train de découvrir qu'il existe des accords de commerce. Sauf que là, plus précisément, il s'agit de ce qu'on peut appeler des accords de commerce, plus exactement de libre-échange, et de libre-échange de nouvelle génération. Puisqu'en fait, on arrive maintenant à des accords de commerce qui sont, on peut le dire, de troisième génération. Il y en a eu deux auparavant. Il y a eu, entre, on peut le dire, 1947 et 1995, un accord de commerce qui a réglé les questions des tarifs douaniers, essentiellement, le GATT, vous en avez entendu parler, l'accord général sur les tarifs douaniers, qui était l'accord qui réglait les relations commerciales entre les pays, on va dire, de, comme on appelait ça à l'époque, du monde libre, ou du monde capitaliste, c'est-à-dire toute la sphère qui n'était pas du côté soviétique. Toute la sphère dite du monde libre ou du monde capitaliste. Le GATT avait comme première ambition de régler les questions de droits de douane. Ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il s'agissait de baisser les droits de douane, il a considérablement contribué à faire baisser les droits de douane, effectivement. Mais il y a eu d'autres sujets qui se sont agrippés petit à petit à ces questions de droits de douane, les sujets de facilitation du commerce, etc. Il y a eu beaucoup d'autres sujets qui sont arrivés. Et surtout, ce qui s'est passé, ça ne vous a pas échappé, dans les années 80, on a assisté à deux événements historiques dans le monde, qui sont, d'une part, l'arrivée au pouvoir en Occident des néolibéraux, avec Margaret Thatcher en 1979, vous voyez, et ça fait longtemps, mais Ça a eu des conséquences considérables. Et Ronald Reagan l'année d'après. Et la chute, effectivement, de l'Union soviétique un peu plus tard. À partir de là, à partir de ces deux événements, on arrive à cette idée, je veux dire les dirigeants des grands acteurs institutionnels, arrivent à cette idée que ce n'est pas suffisant d'avoir seulement un accord qui s'occupe des droits de douane, qu'il faut pousser plus loin d'autres sujets qui déjà commençaient à être discutés dans le cadre du GATT. Et en 1994, avril 1994, a été décidé, à la suite de cycles de négociations du GATT, a été décidé la création de l'Organisation mondiale du commerce. Et là, on passe dans des accords qui font un saut qualitatif absolument considérable. C'est-à-dire qu'on ne parle plus seulement des questions de relations douanières ou autres, un peu à la marge. On veut, à travers l'Organisation mondiale du commerce, à partir de 1995, aboutir à baisser les barrières derrière les barrières. C'est le terme qui est employé à l'époque. Baisser les barrières derrière les barrières, ça veut dire baisser les barrières réglementaires internes aux États qui sont derrière les barrières commerciales, comme les droits de douane. C'est dire que les droits de douane ne sont plus la question primordiale sur les accords de commerce, mais qu'il s'agit de faire des accords de libre-échange qui visent à atteindre les réglementations internes des États qui sont analysées comme des obstacles au commerce. En fonction d'un certain nombre de principes qui sont posés de manière très claire à ce moment-là. Premier principe, libéralisation du commerce. Libéralisation du commerce international, ça veut dire mise en concurrence généralisée. Il doit y avoir le principe de concurrence qui doit primer absolument tous les autres. Puisque le principe de concurrence prime absolument tous les autres, alors on arrive tout de suite à cette idée qui est qu'il ne doit pas subsister des mesures distorsives au commerce. Les mesures distorsives au commerce, c'est-à-dire des mesures qui sont par exemple des subventions, des mesures discriminatoires, des mesures publiques qui discriminent les opérateurs de commerce. Les subventions sont discriminatoires. Quand on fait une subvention, quand une puissance publique, quel que soit son niveau, décide de subventionner une activité, par définition, elle opère une discrimination. C'est le principe de la subvention. Hein. On choisit quand on fait des subventions. Ça, c'est discriminatoire. Mais il y a aussi des mesures qui sont autres, comme par exemple qui peuvent être des mesures de contrôle sanitaire, mais qui en réalité sont des mesures distorsives, discriminatoires, cachées. Parce qu'elles vont plus loin qu'il n'est nécessaire pour atteindre leur objectif. Alors vous posez tout de suite la question, ah, qu'est-ce que c'est qu'une mesure qui va plus loin que nécessaire quand elle est prise au niveau national et qui serait par exemple une mesure de contrôle sanitaire, qui dit qu'elle va plus loin que nécessaire cette mesure-là? Et c'est là une des grandes inventions qui a été mise en place avec la création de l'Organisation mondiale du commerce à partir de 1995, la mise en place concomitante d'un organe de règlement des différends. C'est là où on commence à voir apparaître, ça existait déjà au moment du GATT, à la fin du GATT, mais là c'est mis en place de manière très claire, un organe de règlement des différends, c'est-à-dire un tribunal international devant lequel un État peut porter plainte contre un autre État au motif qu'il ne respecte pas les règles du commerce international. Je vous parlais à l'instant des mesures sanitaires qui sont des mesures masquées, en réalité distorsives au commerce. Il y en a une que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, parce qu'elle avait vraiment fait le tour de la planète à ce moment-là. C'est la décision de l'ORD, bœuf aux hormones. Vous avez entendu parler de ça. C'est très simple. Sur le principe, c'est très facile à comprendre. Les États-Unis, le Canada fabriquent du bœuf aux hormones. L'Union européenne, pour des motifs sanitaires, considère que la population n'a pas à manger du bœuf aux hormones. Très logiquement, les États-Unis et le Canada portent plainte devant l'organe de règlement des différends et obtiennent la condamnation de l'Union européenne du fait de cette mesure sanitaire qui est en réalité une mesure distorsive au commerce parce que discriminante. Selon quelle logique ? Une logique qui est instaurée, un principe qui est instauré à ce moment-là, et qu'on retrouve intégralement dans les traités dont je vais parler dans deux minutes, hein, c'est-à-dire dans les projets de traité Union européenne-États-Unis, européenne-Canada. Le principe de l'équivalence des produits. Un bœuf est un bœuf. Qu'il soit avec des piqûres aux hormones ou qu'il ait brouté d'herbe verte, c'est un bœuf. Un maïs, c'est un maïs. Qu'il soit avec de l'OGM ou non, c'est un maïs. Donc à partir de là, il n'y a pas de raison d'interdire qu'un produit qui n'a pas de différence soit discriminé à l'entrée. Et de fait, l'Union européenne a été condamnée sur cette histoire de bœuf aux hormones. Plus exactement, l'ORD a autorisé le Canada et les États-Unis à augmenter leurs droits de douane sur 12 produits en provenance de l'Union européenne, le temps que le préjudice dure. Environ 117 millions de dollars par an pour l'Union européenne et une petite vingtaine, un peu moins, une grosse quinzaine, 17 millions pour le Canada. Il se trouve que cette histoire de faux hormones, par ailleurs, a été réglée par un arrangement qui est intervenu pas mal d'années plus tard, mais enfin, voilà le principe là qui est effectivement posé, qui est donc que libéralisation des échanges, concurrence généralisée, interdiction de la discrimination, organe de règlement des différends qui rend l'Organisation mondiale du commerce un des organismes les plus puissants, on va dire, en tous les cas les plus efficaces, plus exactement, les plus efficaces dans l'ordre international. Alors voilà, on en est là, aux alentours des années 2000, lorsque, en fait, eh bien, on s'aperçoit, enfin plus exactement les acteurs institutionnels, Union européenne, États-Unis en tête, s'aperçoivent que l'OMC, ça ne marche pas. C'est-à-dire que l'Organisation mondiale du commerce, qui avait comme mandat clair de libéraliser l'ensemble du commerce sur toute la planète, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que des règles qui sont quand même assez brutales, on peut le dire, lorsqu'elle s'applique à un certain nombre de secteurs, comme par exemple l'agriculture, ça passe pas. Et ça passe notamment pas parce que à l'OMC, il y a aussi des pays pauvres qui ont deux inconvénients du point de vue des pays riches, qui sont d'une part d'être nombreux et d'autre part d'être pauvres, c'est-à-dire d'être moyennement intéressants, pour le dire comme ça, sur le plan commercial. Donc non seulement ils bloquent, mais en plus ils ne sont pas solvables. Bon. L'idée, donc, est apparue assez clairement de faire en sorte de mettre en place des accords de commerce qui aillent plus loin que l'OMC, mais qui soient des accords de commerce entre pairs, c'est-à-dire Nord-Nord, Canada, Union européenne, États-Unis, Union européenne. Bien. Et on en est là. On en est là. Alors, cette idée de multiplier les accords de commerce bilatéraux ou régionaux, c'est pas une idée qui a été exprimé d'une manière aussi, on va dire, aussi raccourcie que je viens de le faire, mais ça a été exprimé effectivement officiellement dans un document officiel de l'Union européenne, qui est le document Global Europe, qui a donné les 10 ans entre 2000 et 2010 la feuille de route de l'Union européenne, qui maintenant est la feuille de route, c'est UE 2020 entre 2010 et 2020. Et tout ça est expliqué, là-dedans. Et on arrive donc en juin dernier, pour Union européenne-États-Unis, il y a 4 ans pour Union européenne et Canada, à ce projet d'accord Nord-Nord, à ces projets d'accord Nord-Nord, qui vont plus loin que ceux de l'Organisation mondiale du commerce. C'est-à-dire qu'on reprend les mêmes principes que je vous ai décrits dans l'Organisation mondiale du commerce, mais on les améliore, du point de vue, bien entendu, des promoteurs de l'accord, en instaurant deux mécanismes. Le premier a été en partie décrit, qui est le mécanisme de règlement des différends investisseurs-États. C'est une façon de dire un peu complexe, quelque chose de très simple. Ça consiste dans la possibilité laissée à des entreprises, ce qu'on appelle les investisseurs, de porter plainte contre des réglementations internes des États qui constitueraient une menace ou qui constituerait une réalité d'une expropriation directe ou indirecte. Plainte portée non devant un juge, c'est ça qui est important. Tout à l'heure, l'exemple qui a été donné, c'est devant un juge. Non, plainte portée devant un arbitre. Qu'est-ce que c'est que ça qu'un arbitre international? C'est intéressant de se pencher sur ce genre de choses. Il y en a de quatre sortes. Enfin, je veux dire, il y en a quatre gros. L'idée, elle est simple. C'est un organe que les États, un organe privé, composé d'avocats internationaux. Des avocats internationaux, il y a 15 officines dans le monde, il y en a 10 aux États-Unis, 5 dans l'Union européenne. Des avocats qui ne sont pas des juges, qui sont des personnes privées, qui n'étant pas des juges, ne sont pas tenus aux principes de base de la déontologie claire qui est celle qui interdit les conflits d'intérêts, par exemple. Un avocat peut très bien un jour siéger dans un, ce qu'ils appellent pompeusement une cour arbitrale et le lendemain défendre une entreprise, ou l'inverse, ça n'est pas grave, et qui ne pratique pas la publicité des débats. Je pense que pour une section LDA, je n'ai pas besoin de souligner ce que ça veut dire. Qui ne pratique pas la publicité des débats et qui juge les plaintes en fonction uniquement du traité qui les reconnaît, à l'exclusion de tous les autres textes, ce qui était déjà le cas pour l'OMC entre eux. C'est-à-dire l'objectif de libéralisation interne à l'exclusion de tout le reste. Bien. Alors, nous, quand on regarde ça, évidemment, on a à l'idée l'affaire Tapie, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, c'est le même mécanisme, sauf que c'est au niveau international. Mais, figurez-vous, c'est pas une nouveauté, même au niveau international, cette histoire-là. C'est pas du tout une nouveauté. C'est-à-dire qu'on sait que ça existe depuis un moment, et on a une jurisprudence très sérieuse là-dessus. Et ça existe depuis un moment parce que ça a été instauré il y a 20 ans déjà par un accord de libre-échange nord-américain qui réunit le Canada, les États-Unis, le Mexique, le cadre du chapitre 11. On a un certain nombre de données et il y a aussi une foule d'accords, il y en a un peu plus de 3000 aujourd'hui dans le monde, qui sont des accords bilatéraux sur l'investissement et qui, pour certains d'entre eux, prévoient ce genre de choses. Alors, on a maintenant une jurisprudence un peu sérieuse de ce que décident ces organes arbitraux. On a cette jurisprudence, si vous l'avez vérifiée, vous pouvez. C'est totalement public. Vous allez sur le site de la CNUSED. Alors, il faut lire l'anglais commercial. Je suis un peu désolé, c'est cet anglais un peu spécial. Mais vous allez sur le site de la CNUSED, vous regardez notes sur SISDS, c'est l'acronyme anglais, mars 2013, note numéro 1. Et vous avez un petit rapport comme ça, d'une vingtaine de pages, qui nous apprend des choses très intéressantes. Il y a 514 cas qui sont actuellement pendants devant des organes d'arbitrage. Effectivement, vous avez le cas de l'Argentine qui a eu à supporter le plus d'attaques, une grosse quarantaine, parce que essentiellement l'Argentine, vous le savez, a vécu une crise sérieuse, grave, et qu'elle a pris pour essayer de faire face à cette crise-là un certain nombre de mesures de dévaluation monétaire et aussi de fixation du prix de l'eau et de l'énergie en direction des populations. Le fait d'avoir pris une mesure en direction de la fixation du prix de l'eau et l'énergie lui a coûté d'ores et déjà 1,18 milliard en faveur de CMS Industries des États-Unis, de Vivendi, on ne présente pas, et de Aguas de Barcelona. Ça, c'est un exemple. Il y en a aussi, il y en a d'autres. L'exemple de Philippe Morris a été donné, qui effectivement a poursuivi l'Uruguay, qui a également, pour les mêmes motifs, poursuivi l'Australie. Vous serez aussi très heureux, enfin, je ne sais pas, très intéressé d'apprendre qu'il y a actuellement une affaire qui oppose une société qui s'appelle Lone Pine, qui est une entreprise des États-Unis, et qui poursuit le Canada dans le cadre de l'ALENA, au motif que le Québec, province du Canada, a prononcé un moratoire sur l'exploitation des gaz de schiste par fracturation hydraulique. Je pense que c'est quelque chose qui doit résonner, sans aucun doute. Vous avez l'exemple de l'Équateur qui a été condamné à la plus grande amende, la plus haute amende jamais prononcée, pour avoir nationalisé son pétrole. 1,3 milliard ou quelque chose dans ces eaux-là. Un chiffre un peu plus petit mais très intéressant aussi, qui porte sur 22 millions d'euros. Le gouvernement slovaque a privatisé les services publics. Bon, il avait été élu pour ça, donc il le fait. Et il se trouve que dans le débat public en Slovaquie, eh bien, la question des services publics de la santé sont vraiment montées comme étant un sujet important. Le gouvernement est tombé il y a quelques années de ça, il y a un peu plus d'un an de cela, le gouvernement est tombé autour de la question de la privatisation de la santé, et le nouveau gouvernement a renationalisé les structures de santé, puisqu'il avait été élu pour ça. Bon. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une société qui s'appelle ACMEA, qui est une société des Pays-Bas, qui a utilisé un accord bilatéral sur l'investissement entre la Slovaquie et les Pays-Bas, pour faire condamner la Slovaquie qui a pris ce genre de décision. Actuellement, ACMEA poursuit la Slovaquie devant le même arbitre pour son projet de mettre en place une couverture maladie universelle dans ce pays. Qu'est-ce que vus avez d'intéressant aussi? Vattenfall, qui est une entreprise, qui est une filiale de Swedish Energy, une entreprise sise en Allemagne. Vattenfall poursuit l'Allemagne au motif pour, et demande 3,5 milliards de dollars au motif que l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire et que Vattenfall se trouve être propriétaire de deux installations nucléaires. Alors, je ne vais pas vous faire les 514 cas parce que d'abord, je ne les connais pas tous, par cœur en tous les cas, mais j'ai le rapport là si vous voulez plus de détails encore. Mais on voit bien les conséquences de tout ça. C'est-à-dire que mettre en place un accord bilatéral dans lequel le juge est écarté au profit d'un arbitre, avec les conséquences qu'on peut déjà constater sur ce type de jurisprudence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'une part, l'argument selon lequel il faut mettre en place ce genre de choses pour attirer l'investisseur, c'est un argument totalement faux. Les investisseurs, c'est l'argument qu'on nous sert, on nous dit on met ça parce qu'il faut attirer les investisseurs. Non, ça ne fera pas, c'est pas ce qui est recherché. Ce qui est recherché, c'est véritablement arriver à un système dans lequel le périmètre de la décision publique est déterminé à partir de maintenant par les entreprises et non plus par la délibération collective. C'est-à-dire, ce seront les entreprises qui décideront, ça je veux bien, ça, cette réglementation, ça va, celle-ci, non, j'en veux pas. Et qui pourront le décider en le contestant, non pas devant un juge, ce qu'elles peuvent faire actuellement. Une entreprise qui n'est pas satisfaite d'une réglementation peut la contester devant un juge. C'est pas interdit, c'est même possible et ça se fait tout le temps. Mais là, non, on va écarter le juge parce que le juge, il applique des lois qui sont décidées dans un processus démocratique et qui, là, sera totalement ignoré. Le périmètre de la décision publique ne dépend plus de la délibération collective, ce qui est normalement le cas dans une démocratie, en tous les cas dans une démocratie représentative, mais représentative ou pas, dans une démocratie tout court. L'idée selon laquelle les gens sont légitimes pour s'occuper de leur affaire devient une idée totalement secondaire. Et alors là où ça devient important, c'est que, rentre dans les détails, c'est qu'il ne faut surtout pas s'imaginer que ce genre de choses se passe seulement au niveau national ou fédéral, mais aussi au niveau local. J'insiste un peu, mais il se trouve qu'il y a une équipe, il y a y compris le maire et des membres de l'équipe municipale. L'article 4 du mandat que l'Union européenne, que les États a donné au commissaire pour négocier cette chose-là, ces choses-là, dit que tous les niveaux de gouvernement sont concernés. Et précise que ce soit au niveau fédéral, national, local. Une municipalité, prenons un exemple, veut passer un marché public. C'est quand même fréquent. Elles veulent passer un marché public, par exemple, pour la santé, pour la cantine scolaire, mettons. Et dans son marché public, elle dit « je veux un certain nombre de choses », ce qui est normal aussi, et parmi ces choses-là, par exemple de la nourriture bio, par exemple de la nourriture en circuit court, producteur local, choses qu'on peut penser totalement habituelles et qu'on rencontre extrêmement souvent. Bon. Qui nous garantit qu'il n'y aura pas une entreprise de grande distribution qui dira « mais pourquoi circuit court ? Pourquoi nourriture bio ?» Vous voyez ? Pourquoi moi je ne peux pas participer à votre appel d'offres ? Alors évidemment, l'entreprise en question ne va pas cibler une collectivité. Elle fera du carottage. Elle prendra comme ça une liste, elle dira « tiens, tac, cette collectivité-là, celle-là, je vais m'occuper de son cas, comme ça, au hasard, au milieu d'autres. » Et juste la menace sera suffisante. Parce que pour aller devant une cour arbitrale, en moyenne, entre les frais d'avocats, etc., hein, les avocats dans les cours arbitrales, c'est 1 000 euros de l'heure, c'est quelque chose entre 5 et 8 millions d'euros. Quelle est la collectivité locale qui peut, en bonne gestion, oser penser défier une menace comme celle-là? Elle n'y arrivera pas. Donc, hop, elle va essayer d'éviter la procédure en ne prenant pas les décisions qui fâchent. Et on voit par là comment, même sans aller devant l'arbitre, on a, y compris des collectivités territoriales, qui sont coupées dans leur volonté de mener des politiques qui relèvent de leurs compétences. Ça, c'était pour l'aspect démocratique des choses. Et donc, ça, c'est un mécanisme. Je vous en ai promis deux, là le second. Parce qu'il y en a un deuxième. Le deuxième mécanisme qui est prévu, c'est celui de la coopération réglementaire. Jusque-là, je vous ai parlé des réglementations existantes. Maintenant, comme dirait Business Europe, qui est en gros le MEDEF européen, il faut penser à l'avenir, faire que cet accord soit un accord vivant, c'est le terme qu'a employé Business Europe. Eh bien, il s'agit de mettre en place la coopération réglementaire, c'est-à-dire que si un gouvernement, dans l'avenir, a la volonté de prendre une mesure qui pourrait être protectrice de la population, dans le domaine social, environnemental ou autre, et qui aurait un impact sur le commerce, c'est-à-dire toutes les mesures ont potentiellement un impact sur le commerce, alors il faudra organiser ce qu'on appelle un mécanisme d'alerte précoce, c'est-à-dire il faut informer l'autre partie prenante de la volonté de mettre en place cette mesure, qui suscitera de son côté les commentaires des lobbies d'affaires qui sont concernés par cette mesure, qui vont dire oui ou qui vont dire non. Et si le comité de suivi de l'accord mis en place donne un avis défavorable, l'État saura que s'il persiste, il aura ensuite dans un deuxième temps, du fait du mécanisme de règlement des différents investisseurs État, les entreprises qui nous tombent dessus en disant « on vous avait prévenu dans le cadre de la coopération réglementaire ». Donc, ce type d'accord, en plus, se donne des allures d'irréversibilité. C'est-à-dire que non seulement ce qui est visé, ce sont les réglementations actuelles, mais futures. Il y a une espèce de verrouillage là qui est fait très lourdement. Alors, on peut essayer de rentrer un peu dans les exemples. Parce que là, j'ai juste donné quelques petites choses. Mais prenons le gaz de schiste. Aujourd'hui, en France, il y a un moratoire. C'est juste un moratoire. Hein. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ce qu'on appelle dans l'Europe le principe de précaution. Le principe de précaution, vous le connaissez ce principe? Il y a une nouvelle molécule, il y a une nouvelle technique qui arrive sur le marché, il y a quelque chose de nouveau. On ne sait pas bien si c'est dangereux, pas dangereux. On va éviter de faire, puisqu'on a des doutes. Principe de précaution. Ce principe de précaution saute, puisque maintenant, il est remplacé par un autre principe, qui est celui de la reconnaissance mutuelle des normes. Dès lors que c'est accepté d'un côté, ça doit être accepté de l'autre. Dès lors que l'exploitation de gaz de schiste par fracturation hydraulique est acceptée d'un côté, ça doit être accepté de l'autre. Dès lors que les OGM sont acceptés d'un côté, ça doit être accepté de l'autre. Et on peut faire comme ça, dévider toute, toute la flotte. On peut parler du bœuf aux hormones, on peut parler du cochon à la ractopamine, on peut parler du poulet chloré, etc., etc. Toutes ces choses qui sont extrêmement concrètes et qui, en fait, auront pour conséquence de se retrouver possible, non pas possible, mais autorisé, du fait de cet accord, sans qu'à aucun moment il n'y ait eu de débat public, il n'y ait eu de décision publique réellement prise. Bien. Alors maintenant qu'on est là, je me dis que vous commencez à regretter de ne pas être resté dehors, en plus il fait beau, la ville est superbe, et que là, vraiment, vous apprenez des choses qui sont quand même moyennement joyeuses. Sauf que ce n'est pas du tout une intervention Prozac, enfin en tous les cas, ce n'est pas l'ambition de cette intervention, parce que, en fait, je voudrais terminer par quelque chose d'optimiste. C'est qu'on a des chances d'avoir la peau de ces deux accords. On a des chances d'avoir la peau de ces deux accords pour plusieurs motifs. Le premier, on n'est pas en retard. Ça mérite d'être signalé. Hein, souvent, le mouvement social, c'est un peu logique aussi, on a plein de choses à faire. Souvent, on se réveille un peu tard. Là, on n'est pas en retard. Les négociations démarrent, Union européenne-États-Unis. Alors, c'est vrai, le président français et le président des États-Unis ont dit qu'ils voulaient conclure rapidement. Sauf qu'il y a de telles contradictions. Il y a de telles modifications à apporter dans les législations respectives que ça ne peut pas se faire dans le délai qui a été fixé par la Commission, qui a parlé de 2014, c'est pas possible, qui ensuite a parlé de 2015, elle est très optimiste, mais même si on se fixe à 2015, vous voyez, on a un peu plus d'un an, ou on a presque deux ans, c'est pas mal, pour se mettre en ordre de marche, on n'est pas en retard. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Union européenne-Canada. Union européenne-Canada, on n'est pas en retard non plus. Alors c'est vrai que ça fait 4 ans et demi que c'est démarré. Le 18 octobre dernier, le Premier ministre canadien et le président de la Commission ont dit que l'accord était terminé. En réalité, c'est pas vrai. Il y a deux chapitres qui ne sont pas écrits, dont celui sur la question des investissements et sur la question surtout des lois financières. Parce que figurez-vous que les lois financières dans l'Union européenne sont beaucoup plus laxistes qu'aux États-Unis et qu'au Canada. Vous voyez, c'est dans les deux sens hein, les menaces. C'est pas seulement des États-Unis vers l'Union européenne et, ou du Canada vers l'Union européenne. C'est aussi de l'autre côté. Et c'est tellement laxiste les lois bancaires et financières de l'Union européenne que le Canada et les États-Unis considèrent que s'il y a une crise financière que nous connaissons aujourd'hui, ça vient aussi du caractère laxiste de ces lois. Et ils ne veulent pas de ça. Donc, y compris là, il y a, c'est un exemple, il y en a d'autres, hein, je pourrais en donner plusieurs, il y a une contradiction interne, y compris à l'intérieur des acteurs qui négocient, qui nous laisse aussi espérer, qui nous laisse pas mal de marge. L'autre argument intéressant aussi pour dire qu'il n'y a pas de raison d'être pessimiste, c'est que non seulement on n'est pas en retard, mais en plus, on commence à se mettre en ordre de bataille de manière sérieuse. C'est-à-dire que non seulement en France, on a réussi à créer un collectif qui fonctionne, qui est un collectif qui regroupe alors tout le banc et l'arrière-banc des associations sur les OGM, sur les gaz de schiste, ils y sont tous, hein, enfin tous. Ils y sont présents d'une manière très conséquente, un certain nombre d'organisations non gouvernementales aussi très, très importantes, environnementales, des syndicats et même des partis politiques, et ça quand même, c'est suffisamment rare pour être souligné, puisqu'on a aussi bien toutes les composantes du Front de Gauche que les Verts qui sont là, et arriver à les faire cohabiter, ne serait-ce que ces deux-là, vous voyez, c'est déjà pas mal, et ça se passe bien, donc c'est quand même le signe que les choses sont possibles. Une mobilisation aussi au niveau européen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'en France où les choses se font. Il y a également dans toute l'Europe, les choses se mettent en place. Et plus important encore, les bonnes nouvelles viennent de l'autre côté de en Amérique du Nord, les États-Unis, il y a une mobilisation réelle. Il y a une mobilisation réelle, notamment sur, je reviendrai là-dessus si ça vous intéresse, sur ce qu'ils appellent le fast track, c'est-à-dire le vote rapide d'une loi qui permettrait à l'administration de négocier sans amendement, Ça, ce n'est pas donné à l'administration des États-Unis d'obtenir ça. Et ce n'est pas donné parce qu'il y a des grosses organisations de public citizen qui ont réussi à faire monter déjà cette question dans le débat public, dans le débat public aux États-Unis. Également au Canada, et particulièrement au Québec, j'ai pu vérifier moi-même personnellement, que la mobilisation était tout à fait forte. Déjà aux États-Unis, déjà au Canada, les questions commerciales sont des questions politiques centrales. La dernière campagne électorale aux États-Unis, toutes les campagnes qui se passent au Canada se passent autour des questions commerciales. Et c'est normal, ça fait 20 ans qu'ils ont l'ALENA, donc ils savent un peu de quoi ils parlent. Alors tout ça, on n'est pas en retard, ça commence à se mobiliser de manière un peu sérieuse. Vraiment, il y a des échos dans la population. Ça ne doit pas nous faire croire non plus que c'est gagné, c'est absolument pas gagné. On est au début hein, de la mobilisation. On a du travail, on a beaucoup de travail. On a des précédents, on a déjà gagné des guerres précédentes. On commence à avoir des résultats. Et notamment, on a alors deux échéances. Les européennes qui arrivent, aller enquiquiner les candidats et les candidates, leur dire voilà, les enquiquiner, les solliciter. Pour leur dire, voilà, vous serez élu ou vous voulez être élu dans le prochain Parlement qui va ratifier ou pas ces deux textes. Quelle est votre position? Qu'est-ce que vous dites sur Union européenne-Canada? Qu'est-ce que vous dites sur Union européenne-États-Unis? Donc ça, c'est une échéance qui arrive là dans 2 mois. Bon, c'est une première échéance. On lance aussi une échéance sur le long terme qui consiste à aller voir les collectivités locales, leur poser, les élus des collectivités locales, leur poser le problème. Non seulement parce que c'est toujours très important d'informer les élus locaux qui ne sont pas plus informés que la population en réalité, donc ça c'est très important, mais aussi parce que c'est, et surtout, c'est l'occasion de faire réellement campagne sur le terrain, c'est-à-dire que de toucher les gens au plus près. Puisqu'on demande aux collectivités locales de se déclarer hors TAFTA, et donc, c'est l'occasion de faire véritablement une pédagogie politique, ou en tous les cas, une prise de conscience politique au plus près du terrain. Déjà, 3 régions et 2 départements se sont déclarés hors TAFTA et 3 villes. Donc, on commence à engranger Île-de-France-PACA-Limousin, Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, le département d'Arles.
Auvergne.
Et Besançon, c'est sûr. Et il y a 2 autres villes, vous savez, non ?
Niort.
Niort et Bordeaux. Vous voyez, bon, donc déjà, on commence à obtenir des résultats. Alors, c'est pas gagné, mais c'est en passe de l'être. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis maintenant, on répond aux questions.
Répondre à vos questions.
Attends, peux poser des...
Il y a un micro là.
Il faut le brancher.
Là, c'est là. J'ai une question, c'est vous avez parlé de la mobilisation et donc dans les pays riches, en Europe, en Amérique du Nord, il y a enfin moi j'aimerais aussi que si vous pouvez préciser un peu ce qui se passe dans les autres pays avant en Amérique du Sud par exemple avec tous les exemples que vous avez donnés justement j'ai l'impression que les peuples d'Amérique du Sud pour la plupart des États ce sont ça fait un moment déjà qu'ils résistent à ça en créant l'UNASUR enfin, les organisations.
On fait comment en
gros ? Attends, il y a une autre question. D'accord. Là, on va grouper quelques questions et puis une troisième question.
Moi, je voudrais poser une autre question qui va un peu dans le même sens. C'est y a-t-il une mobilisation actuelle pour la zone Asie-Pacifique ?
Ah oui. Il y a une question derrière.
Mobilisation.
en termes d'implication des organisations européennes. Que fait la Confédération européenne des syndicats? Que font les organisations syndicales états-uniennes? Et que font éventuellement les organisations patronales des deux bords de l'Atlantique?
Bon, mais on va répondre.
Question subsidiaire, que fait le gouvernement français? Alors, oui, effectivement, sur la question des mobilisations des pays d'Amérique du Sud. Alors, les pays d'Amérique du Sud sont de ce point de vue-là historiquement exemplaires, puisque ils ont réussi quelque chose qui est absolument considérable. Il y a de ça, dans mon souvenir, entre 3 et 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, ils ont réussi à éviter que soit mis en place la zone de libre-échange des Amériques, la ZLEA, qui était plus que dans les tuyaux, qui a vraiment failli passer à la demande express, bien entendu, des États-Unis. Ils se sont regroupés, ils ont réussi à faire en sorte que cette chose-là ne se mette pas en place, puisque l'idée, c'était que l'ALENA, c'était un début, l'ALENA, accord de libre-échange nord-américain, et il s'agissait de créer une zone de libre-échange sur le continent des deux Amériques. Et la mobilisation dans les pays d'Amérique du Sud, une mobilisation populaire tenace, a réussi à faire sauter ce genre de choses. Ça va plus loin, puisque dans les pays d'Amérique du Sud, il y a eu aussi la création d'un autre type d'accord de commerce. Alors on pourrait en discuter, on devrait en discuter un peu plus dans le détail, qui est l'ALBA, qui est un accord qui regroupe un certain nombre de pays à l'initiative du Venezuela notamment, mais aussi la volonté de créer une banque de développement qui a un petit peu de mal à décoller quand même du fait des réticences du Brésil notamment. Donc les choses ne sont pas nécessairement toujours positives. Mais en tous les cas, l'idée que le commerce ne devait pas être cette espèce d'intégration libérale dont rêvaient les États-Unis, ça, ils ont réussi à mettre un terme. De la même manière qu'un certain nombre de pays sont sortis des organes d'arbitrage. La Banque mondiale, par exemple, a un organe arbitral qui s'appelle le CIRDI, qui est l'organe arbitral qui regroupe, on va dire, 50-55%, une bonne moitié en tous les cas, des cas arbitraux qui sont décidés dans le monde. Et il y a un certain nombre de pays d'Amérique du Sud qui aussi ont décidé de ne pas reconnaître les décisions du CIRDI et de sortir du CIRDI. Donc, de ce point de vue-là, les pays d'Amérique du Sud ont... mais c'est un combat de très très longue haleine qu'ils ont réussi à faire. Ils ont quand même réussi à obtenir des résultats tout à fait importants. Alors, concernant l'Asie-Pacifique, il y a actuellement, c'est d'ailleurs un des arguments qui nous a été servi par et le gouvernement français et, d'une manière générale, par l'Union européenne, il y a actuellement en négociation ce qu'on appelle le TPP, qui est l'accord transpacifique, partenariat transpacifique, en anglais TPP, qui regroupe les États-Unis et un certain nombre de pays du Pacifique, donc de l'autre côté, sauf la Chine. L'idée étant d'essayer, du point de vue des États-Unis, d'encercler la Chine. Cet accord est très difficile à mettre en place, y compris parce qu'il y a un certain nombre de pays, dont la Malaisie, dont le Vietnam, etc., où il y a des conséquences sociales très lourdes qui découleraient de ces accords, sachant néanmoins que, par exemple, les troubles qui existent actuellement au Vietnam sont beaucoup plus des troubles sociaux qui viennent des difficultés sociales qu'implique un système très brutal. Par exemple, là, je prends le Vietnam, puisqu'il fait partie du TPP, que directement du fait des accords. Il y a ici et là, en tous les cas, des résistances tout à fait importantes sur le TPP, parce que en Asie, comme partout dans le monde, mais en Asie en tous les cas, la question de la souveraineté alimentaire est une question qui mobilise beaucoup. Et dans le TPP, il y a des pays très riches, comme le Japon, et des pays beaucoup moins riches, où là, la question de la souveraineté alimentaire est forte, et donc il y a une mobilisation certaine aussi. On ne peut pas en dire autant concernant la CES, la Confédération européenne des syndicats. La Confédération européenne des syndicats a une position que je pourrais qualifier en étant gentil de molle. C'est-à-dire que pour l'instant, elle dit on n'est pas contre le principe de l'accord, on veut des accords qui seraient bien pour tout le monde. Je résume un peu en étant un peu mauvaise langue quand même. Elle dit ça complètement comme ça, mais enfin ça revient à ça. Elle dit qu'elle pose des lignes rouges, mais visiblement elle n'a pas lu le mandat qui a été donné au commissaire, puisque les lignes rouges sont déjà très largement dépassées par le mandat. La Confédération européenne des syndicats, il faut le savoir, elle est composée de syndicats, donc en fait. La Confédération européenne des syndicats, elle n'est que le reflet de ses mandataires les plus importants. Vous voyez ? Donc pour l'instant, elle a une position qui n'est pas, on va dire, très intéressante, mais il n'y a pas de raison de désespérer. Et en tous les cas, autre question, quelle est la position des syndicats des États-Unis ? Eh bien, les syndicats des États-Unis, eux, sont beaucoup plus en flèche contre le projet de partenariat transatlantique, notamment la FLCIO. On a rencontré récemment la FLCIO. La FLCIO, c'est le grand syndicat qui est l'équivalent de la CES, mais aux États-Unis. Et la FLCIO est très en flèche contre le projet. Et elle s'est engagée récemment, on s'est vu dans une réunion à Bruxelles le 11-12 décembre, elle s'est engagée récemment à essayer de travailler à faire évoluer la CES. Et on en est là. Hein. C'est-à-dire que les syndicats américains et la FLCIO est plus engagée que la CES européenne. Bon, ça ne va pas nous étonner, hein, ceci dit, quand on connaît un tout petit peu la CES. Les organisations patronales sont très contentes. Les organisations. Alors là, je ne l'ai pas dit hein, dans mon exposé, c'est le cœur du sujet. Vous voyez, je finis par dire c'est ça le cœur du sujet. C'est ce que je me dis finalement. Parce que quand même, comment on en arrive là? Comment on en arrive à faire ce genre de choses? Il y a des raisons. Nos élus politiques disent le libre-échange sauvera le monde. Et nos exportations vont nous sortir de la crise. Je ne vous refais pas le discours, vous l'entendez 15 fois par jour, sur la compétitivité des entreprises, sur etc. Et le fait de capter des marchés à l'étranger va nous permettre de sortir de la crise. Bon, ils sont sur ce type de croyance, qui ne s'est pas vérifié, qui ne se vérifie pas, mais enfin, en tous les cas, ils sont sur ce type de croyance. Et la question était posée, que pense le gouvernement français? À chaque fois qu'on a vu la ministre du Commerce extérieur, elle nous a dit, la France veut cet accord parce qu'elle est persuadée que c'est le moyen de sortir de la crise et du développement. À ce propos, la Commission européenne, au moment de démarrer les négociations, a commandé une étude d'impact, elle est obligée de le faire sur le plan institutionnel, à un organisme qui s'appelle le CEPR, le Centre Européen pour la Recherche. C'est l'acronyme, mais c'est pareil pour la recherche politique, exactement. C'est l'acronyme anglais, CEPR. Et le CEPR a pondu une petite étude prospective en disant voilà ce qu'on peut attendre de cet accord. Le CEPR a commencé par dire déjà, on me demande de penser quels vont être les gains de l'accord dans les 10 ans qui viennent. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer l'année prochaine. Déjà, c'est un peu osé comme exercice, mais je le fais quand même puisqu'on me le demande. Et il arrive à dire, le CEPR, que ça va gagner 0,5% d'augmentation du produit intérieur brut en 2027. 0,5%. Ça correspond, le CEPR a fait le calcul pour nous, à quelques 504, 508, je ne sais plus. à regarder. Euro par foyer européen à l'horizon 2027. Ça, ça doit être le prix, effectivement, de la démocratie. Et il ajoute, le CEPR, ça va créer 500 000 emplois. Deux choses sur les 500 000 emplois et sur les 0,5% de création du PIB. D'abord, ce sont des chiffres au doigt mouillé. C'est-à-dire, ce sont des chiffres qui... Alors, pour les quelques personnes qui... Enfin, pour les personnes à qui ça dit quelque chose, ce sont des chiffres qui sont faits en équilibre général. C'est-à-dire, on dit que le commerce crée des bénéfices, qui crée des investissements, qui crée l'emploi. Bon, ça déjà, le commerce fait des bénéfices, bon, pourquoi pas. Qui crée des investissements, c'est pas vrai. Qui crée l'emploi, non. Donc, déjà, voilà, et il arrive à ça comme ça. Donc déjà, c'est des chiffres au doigt mouillé, et en plus, ce n'est que ça, ce qui est attendu. Ça, c'est pour répondre à... Le libre-échange sauvera le monde. Alors, il y a une autre raison, et je suis désolé d'être aussi long, je ne vais pas être long comme ça à chaque réponse, hein. Mais il y a une autre raison qui est les lobbies. Alors, on le sait, du point de vue des États-Unis, les lobbies industriels et financiers pénètrent réellement la décision publique, c'est-à-dire qu'ils sont installés au cœur de la décision publique, c'est institutionnalisé. On le sait sur les États-Unis, vous le savez, on a lu des choses, on a vu des documentaires, on sait tout ça. Bon, il faut commencer à se faire à l'idée que c'est pareil dans l'Union européenne. Et je reviens à la question qu'en pensent les organisations patronales. C'est pour ça mon long détour. L'instruction qui a été donnée par le commissaire européen chargé du commerce aux négociateurs, et la copier-coller de la demande formulée par Business Europe, l'organisation patronale européenne, la Chambre de commerce des États-Unis, appuyée par 30 lobbies de taille mondiale des deux côtés des États-Unis, c'est le copier-coller. Ils ont écrit une lettre en disant « On veut que dans cet accord, il se trouve ça. » Instruction donnée aux négociateurs, le copier-coller de la lettre publique qu'ont écrit ces organisations au directeur général du commerce, au commissaire chargé du commerce extérieur. Voilà. Donc, je crois que là, on commence à avoir une vision un peu claire des choses, qui est que il faut commencer à se faire à cette idée que l'Union européenne, dont le beau projet est d'organiser, de nous protéger, etc., au minimum ne fait pas son travail. Pour le dire au minimum. Et on peut le dire, même fait le contraire.
Laurent, et puis Charles aussi a une question, et peut-être que vous voyez encore, on met un peu de lumière, c'est pas la peine.
Oui, bien sûr. Vous posez une question absolument fondamentale, et moi, la première question. Et sur laquelle je m'interroge, c'est il faut rétablir la primauté du politique. Mais comment rétablir cette primauté du politique? Il y a le mouvement social, mais en démocratie, la politique, ça se termine toujours par des élections. Et le moins qu'on puisse dire, si on en juge par les résultats nationaux des dernières élections municipales, et puis ça vient de loin, il y a un désenchantement du politique. Qui est extrêmement inquiétant et qui fait dans toute l'Europe, pas seulement en France, le lit de ce qu'on appelle les populismes. Donc, comment rétablir cette primauté du politique? Deuxième question que je pose, c'est une question que vous avez abordée aussi, et vous venez d'en parler d'ailleurs, au niveau européen. Vous avez parlé du beau projet. C'est vrai qu'au départ, c'était un beau projet politique. Après le double suicide de l'Europe, depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Alsacien que je suis, qui a eu un grand-père dans l'armée allemande et un grand-père dans l'armée française, dans la Première Guerre mondiale, et au moment de la Seconde Guerre mondiale, un oncle en haut des forces dans la Wehrmacht et un père dans la Résistance, et ensuite dans les forces françaises. Je trouve que c'est un très beau projet, mais effectivement, elle ne fait pas son travail parce que justement, il n'y a pas. Au niveau européen non plus, une vraie primauté du politique, il y d'une addition au gouvernement. Il y a une commission qui n'est pas une institution démocratique. Vous avez très justement parlé du Parlement à attirer l'attention sur les prochaines élections européennes. Alors moi, c'est la deuxième question que je pose. Est-ce que ce rétablissement de la primauté du politique, il suffit de compter sur le mouvement social au niveau national ou sur le mouvement social au niveau européen pour l'assurer, ou faut-il essayer de réenchanter cette politique et au niveau national et au niveau européen, ce qui passe, parce qu'actuellement, la vie politique, ça passe par des partis politiques qui essaient de conquérir le pouvoir, ça passe effectivement par un véritable espace politique européen, des partis européens, et ça passe aussi par une réhabilitation de la chose partie politique en France, dont on sait qu'aujourd'hui, la cote, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, ça, c'est une deux questions que je pose. Ça va, je pense, au-delà du sujet jugement qui est le TAFTA, mais si on veut gagner son bas, je pense qu'il faut qu'on se pose cette double question, parce que vous l'avez tout à fait justement posé au début, quand vous avez fait cette citation absolument effarante. Le temps du politique est fini, le temps du privé est fini.
Charles, il y a une question derrière. Derrière.
Moi, ce que je voulais dire, enfin, je rebondirais bien sur ce que j'ai dit avant, mais un vaste débat. De toute façon, il ne s'agit pas de vie politique, ce problème est politique, le problème du peuple de chez les politiques est politique. Après, et comment on fait de la politique et comment on la fait sur le terrain. Et je pense que, par exemple, dans les collectifs contre le gaz de schiste, on a mis une action politique, mais autrement, quoi. Pas politicienne, mais dans l'intérêt de tout le monde. La question, je crois que j'aimerais dire que tu développes, c'est que par rapport à certaines discussions qu'on a eues encore il n'y a pas longtemps dans notre collectif de transition, c'est qu'il y a un lien. Il y a quand même des gens qui hésitent en se disant par exemple, le gaz de schiste, c'était un truc très près de nous, immédiat, hein, parce que c'était notre territoire, donc on pouvait s'en emparer, mais un truc comme le TAFTA, au-dessus de nos têtes, et ça pose des... Ça va être compliqué de se bagarrer contre, quoi. C'est pas ce que je pense, quoi, mais je pense qu'il y a une chose à discuter là-dessus, quoi. C'est que un traité comme ça, ça pas seulement des implications au-dessus des têtes, quoi, nationales et internationales, c'est que ça a aussi des implications très locales. Et j'ai envie que tu développes un peu là-dessus sur les implications locales, quoi, pour les collectivités locales, les régions, que ce genre de traité peut avoir. Mais je suis assez d'accord avec toi, si on se bagarre, on peut le fichier en mettre.
Guilhem, il y a une question là. Vous faites passer le micro devant.
Est-ce que la culture est dans le traité?
Oui.
Première question. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a un libéralisme acceptable en dehors du traité? Bon,
on va répondre déjà à ces trois.
Monsieur là, vous ne m'avez pas épargné. Hein. C'est bien parce que c'est des questions importantes. Évidemment, je vais commencer par la plus simple. Donc la plus compliquée, je la traiterai à la fin. Hein ? Merci. Alors, sur la culture est-elle dans le traité, l'intervention du président Hollande, direct, effectivement, au cours d'un conseil des ministres, il est intervenu pour dire que la France mettait son veto s'il n'y avait pas d'exception culturelle, et ça a été traduit dans le mandat par le fait que dans le mandat qui a été donné par l'ensemble des pays à, au commissaire européen chargé du commerce sur la question de l'Union européenne-États-Unis, ça s'est traduit par l'audiovisuel n'est pas négocié, n'est pas sur la table. Ça a été présenté comme l'exception culturelle, en réalité c'est l'audiovisuel, le reste n'est pas exclu, a priori. Le reste y compris, enfin, par exemple je pense aux livres, ça n'est pas exclu. Sur le numérique, on nous a répondu, le numérique, on va avoir une directive numérique, quand cette directive sera faite, alors à ce moment-là, il sera toujours temps de revoir le mandat de la Commission. C'est le gouvernement français qui nous a répondu ça il y a quelques mois sur ces questions-là. Voilà. Pourquoi est-ce que l'audiovisuel n'est pas sur la table? Pourquoi sans doute le président de la République a tenu à ce que ce ne soit pas sur la table? Probablement que, et c'est normal, il a peut-être un peu de mémoire, puisque en 1998, au moment de l'accord multilatéral sur l'investissement qu'on évoquait, c'est aussi la mobilisation des cinéastes qui a permis que ce ne soit pas possible d'adopter l'accord multilatéral sur l'investissement qui déjà prévoyait en son temps, en 1998, le même type de dispositif. En revanche, je vous ai parlé tout à l'heure d'un autre accord qui est l'accord Union européenne-Canada. Lui, la culture est dans les négociations. Et là, il peut y avoir, et on doit craindre, un effet boomerang. Puisqu'il n'y a pas de difficulté particulière pour une entreprise de s'installer ailleurs. Qu'est-ce qui empêche une entreprise de divertissement des États-Unis, par exemple, de s'installer au Canada et ensuite d'attaquer une réglementation sur le cinéma, les avances sur recettes, tout ce que vous voulez, ou les quotas de télé, enfin, la liste est longue, d'attaquer une réglementation dans le cadre de l'Union européenne? Rien pour l'instant. Donc le danger ne viendrait pas immédiatement du projet Union européenne États-Unis, mais du projet Union européenne Canada, paradoxalement. Y a-t-il un libéralisme acceptable? Je ne sais pas répondre à ça. En revanche, sur les implications locales. Sur les implications locales, bon, tous les niveaux de gouvernement sont concernés. Donc, j'ai donné tout à l'heure l'exemple de la passation des marchés, mais on peut en prendre d'autres. Ne serait-ce que sur les passations de marchés, par exemple, concernant les questions sociales et les questions de santé. Bon, il y a des compétences au niveau local qui existent, hein, sur, par exemple, l'aide à la personne, l'aide à l'enfance. Bien. Du fait de la modification des règles concernant les marchés publics, qui ne sont pas faits dans le cadre de cet accord, hein, ni de ce projet d'accord, qui sont faits dans le cadre de l'Union européenne et dans le cadre national, hein, eh bien, il y a la nécessité de passer, pour un certain nombre d'actions sociales, de passer par des marchés publics. Ça voudra dire qu'à un moment donné, lorsqu'il y aura des marchés publics qui seront passés dans ce domaine-là, il faudra qu'il y ait une conformation de ces marchés publics aux règles de la concurrence instaurées par le marché. C'est-à-dire par le marché, par l'accord. Si je vous donne cet exemple-là, c'est pour vous montrer qu'on ne sait pas jusqu'où ça va. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on peut essayer d'envisager un certain nombre de situations, mais ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où ça va. On ne sait pas jusqu'où et quels sont les secteurs qui sont effectivement à libéraliser. On n'a aucune information sur la question. On ne sait pas. Donc, est-ce que les compétences qui sont des compétences locales sur sur ce que j'ai dit là, c'est dans les négociations ou pas dans les négociations? Il n'y a pas moyen de le savoir. On a déjà posé les questions, on n'en sait rien. Alors, voilà, ça c'est, vous avez, si je ne dis pas de bêtises sur les OGM, il y a aussi une compétence locale sur les OGM, sur les municipaux, sur le pouvoir de police municipale. Bon. Ça, est-ce que c'est compatible avec le principe de reconnaissance mutuelle des normes? Bien sûr que non. C'est-à-dire que la possibilité que, y compris au niveau local, il y ait de bloquer un certain nombre d'implantations d'OGM, par exemple, ne sera plus compatible avec l'accord. Bon. J'ai donné tout à l'heure l'exemple du gaz de schiste, on est dans le même type de, logique. Alors, après, ce que tu as dit, c'est-à-dire c'est un accord qui a l'air comme ça, lointain, etc., c'est aussi une des raisons pour lesquelles on fait cette campagne, on lance cette campagne, y compris au niveau des collectivités locales, c'est précisément pour que ça n'apparaisse pas comme étant lointain et abstrait. C'est-à-dire, en prenant un certain nombre d'exemples concrets, j'en ai donné quelques-uns, on a sur le site d'Attaque une petite brochure qui reprend, qui développe ce genre d'exemple. On a encore des documents, mais beaucoup plus détaillés, si vous voulez vous plonger là-dedans. Il y a effectivement le 4 pages qui a été fait dans le journal qui est là-bas à la sortie, le Lot en action, voilà, par exemple. Donc vous voyez, ça, c'est un moyen d'éviter de penser que c'est un truc comme ça abstrait qui ne nous concerne pas. Au contraire, je crois que le fait d'aller dans une campagne collectivité locale, c'est vraiment pour qu'il y ait des exemples donnés, que ça concerne la vie quotidienne des gens. Alors après, sur la question comment rétablir la primauté du politique, puisque c'est la question que posent ces accords et qui est fondamentalement la question de la démocratie. Alors, je pourrais faire une réponse qui serait juste et en même temps qui éviterait un peu la question. Je pourrais vous dire, et c'est la première partie de ma réponse, on va commencer par avoir la peau de ces accords. Avoir la peau de ces accords, ce n'est pas seulement éviter une catastrophe, c'est aussi remettre en cause les politiques commerciales de l'Union européenne et donc permettre la constitution d'un espace politique par lequel on arrête de faire ces politiques commerciales qu'on nous resserre constamment. Puisque vous avez remarqué, ça ne vous a pas échappé, que ces accords-là, ils s'inscrivent, c'était le sens de ma démonstration, ils s'inscrivent dans le temps. Donc une première réponse, ça consiste à dire... Il faut avoir la peau de ces accords, on a les moyens d'avoir la peau de ces accords. Si on fait ça, déjà, on aura bien avancé. Et c'est vrai. C'est vrai qu'on aura déjà bien avancé. Mais, ça ne répond pas entièrement à la question. C'est-à-dire que la question qui a été posée tout à l'heure, faut-il compter sur le mouvement social au niveau local, comment réenchante la politique, création d'un véritable espace politique, je ne vais pas pouvoir tout seul vous répondre à ça. J'ai un certain nombre d'idées, personnellement. Il faudra me réinviter. Mais ce sont des choses qui sont en débat, qui sont... En gros, qu'est-ce qu'on fait de l'Union européenne? Qu'est-ce qu'on fait entre ce grand espoir qui a été rappelé, de paix notamment, qui est plus qu'un espoir, qui est une réalité, qui a été rappelé dans la création de l'Union européenne? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et le fait que maintenant, l'Union européenne, c'est aussi la Troïka, c'est aussi la BCE, la Commission et le FMI qui s'allient pour affamer les peuples. Il y a quand même quelque chose qui est plus qu'une dérive. Qu'est-ce que c'est aussi que cette Union européenne qui finalement se comporte comme une machine à fabriquer du droit avec un plus petit dénominateur commun, la concurrence? Parce que là, on a parlé de la concurrence libre-échange, c'est-à-dire vers l'extérieur. Mais vous le savez aussi très bien, là aussi ça mériterait d'y passer une soirée entière, vous savez aussi très bien les politiques de concurrence qui sont menées au niveau interne, dans l'Union européenne et dans chacun des États. Alors, vous me direz, les acteurs principaux de cette politique européenne, paradoxalement, ce n'est pas l'Union européenne, ce sont les États. Ils ont l'air comme ça de dire « Oh, mais nous, on n'y peut rien, on est tout seul, il y en a 27 autres, on est obligé de s'éteindre. » Ils gênent un peu comme ça, vous entendez, en disant « On est bien obligé de tenir compte des autres. » c'est vrai, on est obligé de tenir compte des autres, évidemment. Enfin. Mais en même temps, les décisions politiques qui consistent à faire, par exemple, un élargissement sans approfondissement, c'est-à-dire à faire rentrer 10 États d'un coup, qui ont des niveaux sociaux extrêmement disparates, à faire rentrer des États dans lesquels, je connais un peu la Pologne par affinité personnelle, on peut payer les gens en Pologne entre 50 centimes et 1 euro de l'heure, hein, je veux dire. Bon, et puis, à partir de là, que l'Union européenne diminue les aides structurelles distribuées aux États. C'est-à-dire que les 10 États qui sont rentrés ont eu moins d'aides structurelles qu'en leur temps la Grèce, l'Espagne et le Portugal. Bon, ce genre de choses, qui sont des décisions fondamentales, qui ont été prises par les États. On peut dire quand même qu'il y a une responsabilité politique. Donc, on pourrait essayer de répondre, ça peut être un autre élément de la question, de la réponse que j'apporterai à cette question, de faire monter les questions européennes dans le débat national en disant, voilà, le mandat ce n'est pas de créer cette Union européenne libérale, mais de créer une Union européenne qui ait une vraie capacité à mener des politiques sociales, etc. etc. Alors, certains nous disent, et vous allez entendre ça beaucoup dans la campagne électorale, oui, maintenant, premier juré, on va faire l'Europe sociale. Et il faut une majorité politique au Parlement. Alors moi, je le dis clairement, on a besoin d'alliés au Parlement. Vous ferez ce que vous voudrez pour les élections, attaquez pas là pour vous dire ce que vous avez à voter, et vous ferez ce que vous voudrez, de toute façon. Moi, je vous dis simplement qu'on a besoin d'alliés au Parlement, et qu'il se trouve que ceux avec qui on travaille, c'est la gauche unie européenne et c'est les Verts. Voilà. À part ça, vous faites ce que vous voulez. Donc on a besoin d'alliés au Parlement. Là, je vais quand même un peu loin, j'en ai conscience. Mais à part ça, le Parlement a-t-il les moyens de s'opposer aux États? A-t-il le moyen? Vous voyez? Je n'ai pas de réponse à ça. D'ailleurs, je ne peux pas répondre entièrement à cette question comment on réenchante le politique, parce que là, véritablement, ça veut dire se reposer la question qui est légitime de qu'est-ce que nous voulons de cette construction de l'Union européenne. Et je suis embêté pour vous répondre à ça comme ça dans les 2 minutes qui me restent. Enfin, en tous les cas, je n'ai pas le sentiment que je vais pouvoir tout seul avec mes petits bras vous répondre à cette question-là.
Comment répondre à ça en 5 semaines?
Oui, en 5 semaines. Même en 2 minutes.
Bon, encore une ou deux questions. Anne?
Moi, c'est juste, mais si tout le monde a compris, vous ne réexpliquez pas, c'est la reconnaissance mutuelle des normes. Franchement, je serais... Ben, je crois que j'ai compris, mais si moi j'ai mis une réunion dans mon village, j'aurais du mal à. Ben, j'aimerais bien en réquisition. Ou alors, reconnaissance mutuelle des normes, par opposition à.
Une dernière question?
Attends. J'ai pris là. Moi j'ai une question. Les remarques, on sait que toutes ces histoires, en particulier le mandat qui était donné par le Conseil des ministres à la Commission pour négocier ce traité, nulle part là-dedans il n'est question ni du changement climatique, enfin du bouleversement climatique, ni de la raréfaction des matières premières, en particulier du pétrole, le fait qu'on va être obligé d'aller sortir les sols bitumineux de l'Alberta grâce à l'accord avec le Canada. Qui va balancer le climat dans les conditions pas possibles. Ça, il n'y a absolument pas quelque chose. Tout se passe comme si la croissance exponentielle de ces dernières années allait continuer. D'autre part, une autre question, c'est que j'ai l'impression que dans ce traité, il y a tous les éléments qui permettent de préparer l'avenir en disant tout ce qui va se présenter, on va pouvoir le juger à l'aune de ce qui s'est passé avant, et donc on va pouvoir le supprimer. Donc il n'y a aucun moyen de... rien qui va échapper. Je ne vois pas comment quelque chose pourrait échapper à ce rouleau compresseur ce qui va résulter des jugements de ce ORD. Alors, qu'est-ce qui va rester à faire? Est-ce que les multinationales, est-ce que les investisseurs vont pouvoir encore avoir à gagner si ce traité la passe? J'ai l'impression que tout leur est livré, que les États n'ont plus de moyens d'agir sur le devenir de leur population, de leur industrie, de leur tout ce qu'on dit. D'autre part, un dernier truc qui était soulevé souvent par Général, qui fait remarquer avec le traitement national, le traitement de la population la plus favorisée, qu'en fait, il donne toujours l'exemple suivant, l'État français subventionne l'éducation nationale. Si un Américain décide de mettre une université américaine en France, il y en a Columbia et compagnie, Riddle, ben, il peut très bien dire, vous subventionnez votre éducation nationale, subventionnez-nous aussi. Et pour lui, c'est une façon de privatiser, si ce sera évidemment pas possible d'aller subventionner tout et n'importe quoi. Donc, c'est ce que désirait Rockefeller, ce que désirait Denny Kessler, ça va être fait en douceur. C'est même pas la peine de faire des lois. Ça va résulter des ORD.
La dernière question.
Non,
c'est pas une question. Par exemple, le Venezuela, je ne sais pas qui, l'Argentine est condamnée, ensuite ils nous reçoivent l'argent, et qu'est-ce qui se passe si on refuse, si un État est payé, regarde vers qui de l'argent international, qu'est-ce qui se passe?
Et bah, c'est pas
possible. Juste, j'avais dommage, vous disais dans le changement là. C'est que moi je suis assez rassurée de savoir qu'il y a des organisations et les mouvements sociaux qui se mettent en place aux USA et au Canada, et que plus que du côté des syndicats, c'est peut-être aussi du côté de réunions de ces organisations de publics et tout, qu'il y a peut-être des choses à imaginer. Je ne sais pas, mais du coup, c'est parce qu'il y a l'œuvre du coup dans ce sens-là.
Ou le regroupement de syndicats, qu'est-ce qui existe comme regroupement international de syndicats?
D'accord.
Bon, alors, pour répondre aux questions, on passera à la synthèse.
Bon courage pour la synthèse, hein, tu l'es.
Oui.
La reconnaissance mutuelle des normes, en fait, c'est l'idée que une norme qui est acceptée d'un côté doit l'être de l'autre. Par exemple, le tissu que j'ai devant moi, il est teint en bleu. Il est teint en bleu, c'est-à-dire qu'il est teint avec un produit chimique. Ah bon? Non, pas celui-là. L'encre dans mon stylo, elle est bleue. C'est un produit chimique, vous êtes d'accord?
Oui, oui.
C'est un produit chimique. Ce produit chimique, il a été testé pour, si jamais je le mange, ou s'il y a un enfant qui le mange, il ne va pas mourir. Enfin, il aura la langue bleue, c'est tout. Donc le truc, il est inoffensif. Ça a donné lieu à l'édictage d'un certain nombre de normes, etc. C'est-à-dire que quand il y a un industriel qui fait un stylo avec de l'encre dedans, il doit satisfaire à toutes les normes qui sont mises en place dans un code, y compris le code de la consommation. Et il y a une procédure comme ça qui fait que finalement ce stylo, il arrive sur le marché. Et vous avez la directive REACH au niveau européen qui s'occupe de savoir chaque fois qu'il y a une nouvelle molécule qui arrive, par exemple qui est dans l'encre, est-ce que c'est nocif ou pas, etc., etc. Il y a exactement la même chose dans tous les pays, hein, sauf que vous n'avez pas le même type de normes dans tous les pays. Et par exemple, aux États-Unis, vous avez une norme qui accepte que la ractopamine soit mise dans les pores, enfin, avec de la piqûre, pour les faire grossir, etc., et prendre de l'eau et de la graisse plus facilement, ce qui n'est pas autorisé, par exemple, dans l'Union européenne. Bon. Eh bien, dès lors que ça existe d'un côté, ça devrait exister de l'autre. Voilà, reconnaissance mutuelle des nerfs. Et ça peut être dans l'autre sens. Là, j'ai pris un exemple de quelque chose qui serait nuisible pour l'Union européenne. Prenons un exemple de quelque chose qui serait nuisible pour les populations des États-Unis. Vous avez 97% des produits aux États-Unis qui sont OGM. Mais vous avez la possibilité aux États-Unis de faire une labellisation non OGM. Donc c'est une norme, c'est une loi, si vous voulez, qui rend possible ça aux États-Unis. Bon, eh bien, l'Union européenne, elle, considère que c'est une norme qui est contraire à ses intérêts et a demandé que cette chose-là saute parce que ce n'est pas une labellisation non OGM, n'est pas reconnue dans ces termes-là du côté de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez aussi la possibilité aux États-Unis ce qu'ils appellent là-bas le Buy American Act, c'est-à-dire c'est un acte législatif qui se décline localement et qui rend possible ce qu'ils appellent la préférence géographique. C'est-à-dire qu'une mairie, un hôpital, une école peut, pour sa cantine par exemple, décider qu'elle se mettra en cheville avec tel et tel et tel producteur local, sans passer par les règles ordinaires de la mise en concurrence habituelle, et parce que c'est en dessous d'un certain nombre de seuils, enfin, il y a tout un tas de procédures, et pour favoriser la production locale. Bon. Voilà, ce genre de choses ne serait pas normal en tous les cas. La préférence géographique n'existe pas en tant que telle dans l'Union européenne. L'Union européenne a demandé à ce que ça saute au motif du principe de reconnaissance des normes, mutuelle des normes. Ce qui est autorisé d'un côté doit l'être de l'autre. C'est ça le principe. Et donc, le principe de précaution qui existe, tout à l'heure je vous ai donné l'histoire du principe de précaution, qui existe dans l'Union européenne, ne peut pas survivre avec le principe de la reconnaissance mutuelle des normes. C'est pas possible, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Ça, c'est pour le principe de la reconnaissance mutuelle des normes. Il y avait une question sur la clause de la nation favorisée et sur la question du traitement national. Oui, je ne suis pas lancé dans ce genre de choses parce que, ça, par crainte de devenir trop technique, mais en fait, l'idée est assez simple. Ça a été instauré au moment, enfin, déjà, c'était présent dans les dernières moutures de l'accord du GATT, et ça a été instauré de manière forte dans l'OMC, la clause de la nation favorisée, c'est l'idée que toutes les entreprises étrangères qui opèrent sur un territoire doivent être traitées non moins favorablement les unes que les autres. Exemple, je suis une entreprise brésilienne, j'opère en France, et je m'aperçois qu'il y a un accord entre la France et la Thaïlande qui permet que les entreprises thaïlandaises soient mieux traitées que moi. Elles payent moins d'impôts, par exemple, ou elles ont un droit de douane différent. J'ai le droit, au nom de la clause de la nation la plus favorisée, d'obtenir la même chose que l'accord thaïlandais. C'est-à-dire, c'est une manière d'étendre le plus possible les accords de libre-échange. La clause de la nation la plus favorisée a vocation à se transformer très vite, c'est-à-dire, c'est le but de l'accord, en traitement national. Toutes les entreprises doivent être traités de la même manière sur un même territoire, quelle que soit leur nationalité. D'où l'exemple que donne Génard et que tu soulevais tout à l'heure. Une entreprise, une université, l'université des États-Unis, elle a des subventions. Pardon, elle s'implante dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, en France, les universités ont des subventions. Donc, les entreprises universitaires, une université c'est une entreprise aussi si on veut, une entreprise universitaire devra obtenir exactement le même type de subvention. C'est pourquoi je vous parlais tout à l'heure de la question de l'interdiction des mesures distorsives. La subvention est réputée comme étant distorsive par définition, puisque la puissance publique, c'est le but de la subvention, sinon elle subventionne pas. La puissance publique, elle fait un choix pour subventionner. Elle subventionne ça plutôt que ça. C'est ce qui s'appelle une politique publique. Sinon, ce n'est pas la peine. Sinon, elle ne va pas tout subventionner. Tout subventionner, ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Hein, par définition, on subventionne que certaines activités. Bon, et bien, l'idée, la démonstration de Génard, effectivement, consiste à dire traitement national, ça veut dire faire sauter à terme la possibilité de subventionner un certain nombre d'activités.
Donc privatiser.
Oui, donc nécessairement amener à la privatisation. Alors, autre question, qui reçoit l'argent? Alors, là, dans les exemples que j'ai donnés, les entreprises ont porté plainte. Voilà. Donc, ces principes, elles considèrent qu'elles ont été, subi un dommage, elles sont indemnisées de cette manière-là. En soi, d'ailleurs, on peut se dire, mais après tout, une entreprise qui a mis les investissements sur la table et qui, ensuite, les règles changent et elle perd, c'est pas normal qu'elle soit subventionnée. Je vous invite à considérer que c'est déjà le cas. C'est-à-dire que dans nos règles de droit, appliquées par des juges, quand l'État prend une mesure qui est une expropriation, il y a une indemnisation, c'est prévu. Hein. On en pense ce qu'on en veut, mais en tous les cas, c'est prévu. Sauf que là, ce sont des arbitres qui le décident, et uniquement en fonction de la logique de l'accord. Question cruciale. Qu'est-ce qui se passe si l'État ne paye pas? Réponse, rien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'on va mettre une collectivité locale? Est-ce qu'on va mettre un État en prison? Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. On va saisir un bateau? Ouais, ça se fait, hein, de temps en temps, vous avez des histoires comme ça. On saisit un bateau d'un État qui n'a pas payé un truc. Ouais, bon, on va saisir un bateau, et après. En fait, c'est une question de volonté politique. C'est-à-dire, les États qui payent, payent parce qu'ils décident de payer. Ou plus exactement, parce qu'ils considèrent qu'il vaut mieux qu'ils payent s'ils ne veulent pas d'autres conséquences derrière. D'où l'idée de se dire que, à partir du moment où on a accepté un accord international, qui prévoit un mécanisme de règlement investisseur-État, et que derrière on est condamné, on serait quand même complètement incohérent du point de vue de ses engagements internationaux de dire on ne paye pas. Vous voyez ? Donc il vaut mieux éviter, conclusion, il vaut mieux éviter de mettre en place ce type de mécanisme investisseur-État. Tout à l'heure, je vous parlais des raisons d'être optimiste. Il y a quelqu'un qui a soulevé aussi dans les questions qu'il y avait des contradictions à l'intérieur des États. Effectivement, et la France, par la voix de sa ministre du Commerce extérieur, Madame Bric, qui a été remplacée récemment, mais bon, c'est la position de la France, hein, et l'Allemagne, là, il y a deux semaines, ont dit qu'ils ne voulaient pas d'un mécanisme de règlement investisseur-État. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'au mois de juin, ils ont donné un mandat unanime pour dire qu'il fallait négocier un mécanisme investisseur-État. Donc c'est déjà intéressant de voir qu'en si peu de temps, les positions peuvent évoluer. Et ce qui serait intéressant par la suite, c'est de voir comment le gouvernement français va réellement mettre en place cette annonce, puisqu'il dit « je ne veux pas d'un mécanisme ». Qu'est-ce qu'il va faire concrètement pour empêcher que ça arrive? Parce qu'il a une solution, c'est de retirer, de dire ça officiellement dans le cadre de l'Union européenne, pas de le dire seulement devant des journalistes ou aux journaux pour faire plaisir à quelques excités là, qui les enquiquinent. Non, de le dire effectivement dans le cadre de l'Union européenne, on ne veut pas de ce mécanisme. Ils peuvent, hein. C'est pas encore fait, hein, mais ils peuvent. Donc ce qui serait intéressant, c'est aussi d'appuyer là-dessus pour la suite.
Bien, le moment crucial est arrivé. En quelques minutes, une synthèse pour relever les idées fortes de Sorel.
Bien. Alors, je pense qu'on a bien fait, je ne sais pas vous, mais de quitter le soleil de l'extérieur qui était bien tentant. Parce que moi, j'ai découvert quelque chose, c'est qu'à la télé, on ne nous dit pas tout. Parce que l'accord TAFTA, je n'en ai pas souvent entendu parler sur le petit écran. Donc on a bien fait parce que vous nous avez informé de manière très claire sur les tenants et les aboutissants de ce projet, qui constitue, je crois qu'on l'a compris, une lourde menace. Et lourde menace double. Double d'abord parce qu'elle menace directement notre vie de tous les jours, à travers la santé, l'environnement, la culture, l'éducation, la protection sociale, les conditions de travail, avec lesquelles nous n'aurons plus forcément de prise. Et en plus, une menace sur ce qui nous permet d'assurer la protection de tout cela, c'est-à-dire notre vie démocratique. Ce qui me frappe, c'est que l'exécutif voit son espace de décision considérablement réduit, si ce projet est adopté, dans la mesure où des entreprises peuvent lui dicter les limites de ce qu'il peut décider. Et quant au législatif, j'ai bien compris que ce qui primerait, c'est un principe souverain. Alors tout à l'heure, il était question d'un verset de la Bible. Là, je parlerai d'un grand commandement, le commandement de la concurrence libre et non faussée. Grand principe auquel on ne nous a jamais demandé si on adhérait majoritairement, et dont on ne sait pas par qui et comment il a été établi. Et puis c'est une menace double aussi, parce que ça menace à la fois notre présent, mais aussi, si j'ai bien compris, notre futur. Puisque si cet accord était adopté, même si le gouvernement d'un État ou si dans l'Europe le Parlement change, il sera très difficile de revenir sur ce qui avait été mis en place. On a vu l'exemple tout à l'heure, c'est la Slovaquie, je crois, dont vous avez parlé. Et alors, une menace sur le futur, sans du tout de regard projectif sur notre avenir. Il a été évoqué les questions de l'environnement, hein, du changement climatique, etc. Ça n'est absolument pas pris en compte. Donc on a tendance à être consterné par le constat, mais pourtant je vous remercie parce que vous nous avez donné des motifs d'espérance. D'abord en nous disant qu'on n'était pas en retard pour une fois, et qu'en plus il y en avait qui s'étaient déjà battus sur le même domaine à peu près, et qui avaient fait reculer le rouleau compresseur. Alors, ça nous engage, nous aussi, à nous y mettre. Peut-être qu'il nous faut revoir notre façon de fonctionner. Dans notre démocratie, on a tendance à aller mettre un bulletin dans l'urne tous les 5 ans, tous les 6 ans, et après aller se rasseoir dans le fauteuil en observant ce qui se passe d'un air goguenard et en faisant quelques commentaires, pas toujours flatteurs, sur la façon dont nos élus gèrent. Peut-être qu'il faut s'y prendre autrement, et reprendre notre bâton de citoyen pour être actif autrement que dans les votes et ne pas continuer à déléguer notre part de responsabilité à des personnes qui, on le voit, n'ont pas forcément toujours les mains libres. Alors, c'est vrai qu'on ne se sent pas très nombreux, peut-être, enfin la salle est quand même assez bien remplie. Et puis, il y a des associations, des réseaux qui nous portent. Depuis plusieurs années maintenant sur le secteur, il y a une association, je ne retrouve pas le mot, entre la Ligue des droits de l'homme et ATTAC. Et je trouve que ça, c'est aussi un motif d'espérance. Nous avons mené beaucoup de choses ensemble, de combats ensemble, et je crois que nous pouvons unir nos forces. Et ça, je pense que c'est quelque chose de positif, tout à fait. Bon, à ce propos, nous projetons bientôt, je crois que c'est le vendredi 16 mai à 21h au cinéma de Souillac, le film Les Jours Heureux, qui parle de la façon dont le Conseil National de la Résistance, formé de gens extrêmement différents de par leur sensibilité et leurs idées politiques, ont pu bâtir ensemble un programme dont nous bénéficions encore, mais contre lequel il y a beaucoup d'attaques. Et à ce titre, donc j'invite tous ceux qui peuvent être intéressés, à ce titre, ça nous remet un peu les choses en main, parce que dans une situation qui était loin d'être facile, des gens sont arrivés à faire quelque chose. Pourquoi nous, en nous y mettant à plusieurs, nous n'y arriverions pas? D'autre part, vous nous avez donné, en plus d'une espérance, des moyens concrets. Et en particulier, au niveau des Européennes qui nous attendent. Je pense qu'on a encore, on n'a plus que 5 semaines, mais on a encore 5 semaines. Et ces 5 semaines, on peut les utiliser. Bon, il faut qu'on fasse preuve d'intelligence et d'inventivité. Je pense que c'est tout à fait possible. Et puis aussi au niveau de nos municipalités, nous avions déjà à Attaque fait des démarches auprès des maires et des conseils municipaux des alentours de Souillac à propos de la GCS, l'accord général sur le commerce des services. Ben, je pense qu'il va falloir en remettre une couche. On commence à avoir un peu d'entraînement, même si les municipalités ont changé, je pense que ce n'est pas un problème. Et puis, je voudrais terminer juste sur ce principe de la concurrence libre et non faussée qu'on veut nous imposer. Elle n'est pas seulement au niveau du commerce. Elle est aussi, c'est une concurrence qu'on veut nous faire vivre entre les hommes. Entre les hommes au travail, entre les hommes dans un même pays, entre les hommes de différents pays, entre les hommes de différentes ethnies. Et cette concurrence, c'est ce qui, je pense, peut nuire à notre réaction et à notre combat. Et je pense que face à ça, ce que nous avons de mieux à faire, c'est de nous associer et de mutualiser nos forces. Voilà, c'est sur quoi je terminerai.
Bon, il est temps de terminer la soirée. Je voulais dire un grand merci pour cette synthèse magistrale, un exercice particulièrement difficile. Et je voulais aussi remercier infiniment Attaque pour ce travail en commun, effectivement, que nous faisons depuis quelques temps, et très enrichissant pour les uns et les autres. Merci à vous tous. Demain, vous pourrez rattraper le soleil que vous avez manqué aujourd'hui. Pardon, encore demain. Et puis, un grand merci à Frédéric d'être venu, parce que lui aussi...
Voilà. C'est pour